Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue à Sérimania. Merci d'être venus si nombreux. Ça nous fait super plaisir parce que c'est le tout premier podcast de Sérimania dans l'histoire du festival et qui est en public. On est super heureux d'accueillir le podcast Tell From The Click de Jean-Baptiste Toussaint avec ses chroniqueurs et chroniqueuses Sarah, Aurélien, Mehdi et Johan. Tell From The Click. Tell From The Click, c'est une chaîne YouTube qui a été créé en 2015, à plus de 600 000 abonnés. Je pense que ça suffit pour les présentations, je suis sûr que vous les connaissez en plus. Je vous souhaite un excellent podcast.
Déjà, merci tout le monde d'être venu, c'est trop cool, je suis trop content de vous voir. On a aujourd'hui avec nous Mehdi, Johan, Sarah bonjour. Et Aurélien.
Bonjour.
Salut.
Et vous verrez, aujourd'hui, on va pour la première fois parler de séries. On parle de cinéma, c'est la première fois qu'on parle de séries dans le podcast. Je vais commencer comme d'hab. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast TFTC. À mes côtés, dans ce studio, dans lequel on n'a pas l'habitude d'enregistrer. Mehdi, comment tu vas, Mehdi ?
Eh ben super bien, quel plaisir de voir autant de monde.
Oui, parce que en fait, nous sommes en public. Nous sommes à Sérimania et pour la première fois dans l'histoire du podcast TFTC, on va parler de séries et non de ciné. Pour une fois, on a aussi Johan avec nous. Comment tu vas ?
Salut, ça va hyper bien, figure-toi.
Johan, t'étais stressé. Hein.
Je suis...
Alors, figurez-vous qu'il est stressé, Johan, aujourd'hui.
Depuis ce matin, je ne pense qu'à vous, à vos regards, et ça me met très mal à l'aise.
Il est en âge, il est en âge.
Il s'alcoolise en plus.
Je m'alcoolise.
Il est pas bien.
C'est la première bière de ma vie. Donc.
Sarah ?
Écoute, je suis très heureuse d'être avec vous, très heureuse d'être avec le public et très heureuse d'être avec une personne alcoolique à ma droite.
Aurélien aussi, on est avec nous.
Oui, bah pareil, hein, je suis très heureux, merci, bravo, c'est génial. Allons-y.
Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire en fait, c'est que moi j'ai dit...
Tu n'as pas dit comment t'allais toi ?
Moi je vais très bien, je suis content d'être là avec vous. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vous convaincre de regarder des séries qui sont un peu connues, mais pas trop. Parfois, c'est des vieilles séries... que la nouvelle génération ne connaît pas vraiment. Mais l'idée, c'est de vous convaincre de regarder des séries dont on ne parle pas forcément. Donc, on ne va pas aborder des séries comme Game of Thrones ou Breaking Bad, ce genre de séries, mais des séries qui sont moyennement connues ou alors un peu oubliées. On aura 5 minutes chacun pour vous convaincre de regarder une de ces séries, pourquoi pas. Et on va commencer avec Mehdi.
Ah ouais ?
C'est toi qui commences, Mehdi.
D'accord.
Donc, tu vas parler d'une série, Mehdi. Tu voulais faire quelque chose déjà pour commencer ?
Qu'est-ce que je voulais faire ?
T'as pas un petit jeu, ça, non ?
Oui, en fait, pour cette première série, je voulais jouer un petit peu avec vous. Je voulais en fait chanter le générique parce que j'ai, ceux qui me connaissent bien, j'ai une très très belle voix. Donc c'est une série des années 90. C'est comme ça un peu pour vous resituer.
Attention, préparez-vous à être gêné.
Silence, silence dans la salle. 3, 4.
Ta-na-na-na. Ta-na-na-na.
Ah mais là, j'ai entendu buffer, c'est bon, quelqu'un a trouvé.
Ah bah voilà, il a une cinquantaine d'années.
Ah, tu vas nous parler de Beverly Hills.
Exactement, Beverly Hills, donc c'est une série super. Moi j'aime bien Beverly Hills parce que déjà ça se passe à Beverly Hills et que j'imagine que personne ici n'est déjà allé à Beverly Hills. Si ?
Des gens sont allés à Beverly Hills ?
Et,
ah bah voilà, bah,
ça, c'est
cette même personne. Ouais.
Ouais, moi j'y suis jamais allé. Et donc voilà, donc on y retrouve une bande de potes, donc on retrouve que des gens beaux et donc Brandon. Brandon qui est le jeune homme ici au milieu, donc lui c'est le mec un petit peu mielleux, lover.
Mais un peu comme toi.
Non, moi je suis plus Dylan. Donc Dylan qui.
Ouais, bah
là-bas, lui c'est le.
Par hasard.
Mehdi aime être le bad boy.
C'est le bad boy, le brin ténébreux, ça c'est là où je me retrouve le plus.
Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, Beverly Hills, pour ceux qui connaissent pas, c'est une série qui a lancé comme ça une sorte de duel entre deux personnes, deux types de garçons qui est le type bien élevé et le bad boy. Et très souvent dans les années 90, on disait t'es soit Dylan, soit Brandon. Ouais, t'étais Dylan ou Brandon, toi?
En fait, j'ai eu ma période Brandon où je me suis dit que ça plaisait aux filles, et puis en fait, pas du tout.
et les filles sont plus attirées par Dylan.
Je sais pas, les filles sont plus attirées par Dylan ou par Brandon?
Mais je crois que personne connaît la série dans la série, quand même.
Si, je parle comme monsieur.
Brandon, il danse pas déjà. Si tu danses, t'es forcément Dylan.
Et donc, il y a David, par contre, qui lui dansait. Donc, David, c'est le petit jeune, là.
Ouais.
David Silver. Et puis, il y avait. Steve.
Mais alors, la série parle de quoi, alors, Mehdi? Parce que là, tu fais tous les persos.
Mais
la série parle de quoi? Bien en vous faites. Ouais.
Non, bon. C'est l'histoire d'une bande de potes qui sont au collège. Et puis, on les suit, en fait, pendant toutes ces saisons. Il y a 10 saisons. Et c'est une série qui parle de pas mal de thématiques. Donc, ça parle un peu de tout. Hein. Donc, j'ai fait un peu le tour. Ça parle de racisme. Ça parle d'agression sexuelle, de suicide, d'amour, de tromperie, d'alcoolisme.
Mais c'est vrai que c'est une des premières séries à l'époque qui abordait ces problèmes-là pour les jeunes.
Ouais,
en ça, cette série, elle était importante.
En ça, c'était très important. Et donc, c'est une série qui est toujours d'actualité, en tout cas au niveau des thématiques. Et puis, il y a le style des années 90 aussi que j'apprécie beaucoup. Et le style, moi, j'ai ce style aussi encore aujourd'hui. Donc, ça, c'est le style Gene Lewis.
Alors, vu que c'est un podcast, on va pas trop s'attarder sur les images.
Donc, voilà, donc, c'est une série que je regardais moi pendant toute ma jeunesse.
Et qui a duré assez longtemps, parce que ça s'est étalé sur quoi? Genre 12 saisons, 13 saisons?
10 saisons.
10 saisons, ouais.
T'as été jeune.
C'est entre 90 et les années 2000.
Très bien.
C'était très très long. Et personne connaît Beverly Hills.
Ben non, mais tu vois, si.
Trois fois déjà.
Si, voilà, il y en a qui se... Ouais.
Non, mais attends, mais je sais que t'as voulu la placer, cette série, mais... En tout cas, bravo, t'en as parlé, t'es un expert. Hein.
Je sais pas, ça vous a donné envie? Pas du tout. Pas du tout, ok.
Pas du tout.
Okay, d'accord.
Personne n'est chaud pour cette série. On enchaîne avec Sarah. Sarah, qu'est-ce que tu vas nous conseiller comme série?
Alors, moi, j'ai choisi deux séries aujourd'hui qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, si ce n'est qu'elles sont sorties toutes les deux en 2014, il y a 10 ans, mais ne vous inquiétez pas, je les ai revues entre-temps, elles ont plutôt bien vieilli. Donc, la première série dont je voulais vous parler, c'est The Leftovers. C'est une série américaine en 28 épisodes. De Damon Lindelof, à qui on doit également Lost. Bien sûr, Lost, les disparus. Sauf qu'ici, on est plutôt sur une série dramatique, fantastique, dystopique, avec notamment Justin Theroux, que j'aime beaucoup, et Liv Tyler. Et donc, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire. Cette histoire commence un jour d'automne à Mapleton, aux États-Unis, le 14 octobre 2011, plus exactement, quand subitement 2% de la population mondiale va disparaître. Comme ça, du jour au lendemain, sans prévenir, et on ne sait pas pourquoi. Et donc, cette série de Leftovers, Les Restes en français, va suivre justement l'histoire de ceux qui sont restés et leur façon d'appréhender ce drame, leur façon de vivre, ou plutôt de survivre, dans ce nouveau monde post-apocalyptique, pardon, où beaucoup d'entre eux ont perdu un membre de leur famille, voire l'intégralité de celle-ci. Il y a plusieurs choses qui m'ont plu dans cette série. D'abord, c'est l'angle. En fait, c'est pas comme dans Lost, on va pas forcément s'attarder sur les raisons métaphysiques, scientifiques qui expliquent la disparition de ces gens. On va plutôt s'intéresser à la psychologie en fait des personnages, et ça, je trouve ça super intéressant. On s'intéresse à leur désespoir, à leur peur que ça se reproduise de nouveau, et leur manière de se reconstruire après cet événement, avec bien sûr toutes les dérives qui peuvent en découler, l'apparition de sectes, l'apparition de mouvements controversés, etc. C'est une série qui est très profonde, très philosophique et surtout super immersive, parce que ça a beau être dystopique, comme je le disais, il y a un côté très réaliste qui fait qu'on ressent fois mille les émotions des personnages, donc ça c'est très sympa. Et la bande-son, je suis très sensible aux bandes-sons, et là c'est une bande-son signée Max Richter, et qui est sublime, ça sublime absolument toutes les scènes, j'ai passé l'intégralité de la série à pleurer. Et voilà, c'est un chef-d'œuvre, c'est de l'art, c'est de la poésie, donc je ne peux que vous recommander cette série.
En général, ce que les gens me disent sur Leftovers, c'est que c'est beau en fait, c'est
exactement.
Le premier mot qui revient sur cette
ouais.
série.
C'est vraiment ça.
Très gracieux. Bon, on va enchaîner avec la troisième série. En fait, ça va être la mienne. Je voulais parler d'une série de mon enfance. J'hésitais avec Madame est servie ou alors Moonlighting avec Bruce Willis. Mais en fait, j'ai voulu parler d'une série qui s'appelle Mad About You avec Paul Reiser et Helen Hunt. C'est une série qui a été créée en 92, qui a eu comme ça, je crois, 7 saisons jusqu'en 99 ou 6 saisons. Et c'est une série qui suit le quotidien d'un couple new-yorkais, donc dans les années 90. C'est une série qui a permis à Helen Hunt de se faire connaître Ellen Hunt qu'on a vu par la suite dans des films comme Twister, donc des gros blockbusters, ou alors Ce que veulent les femmes avec Mel Gibson aussi. Donc voilà, en gros, on suit ce couple qui est un couple assez aisé. Lui, il est réalisateur de documentaires. Elle, elle est dans les relations publiques. Et c'est une série drôle, donc un peu dans la vibe de Friends ou de Seinfeld. Et c'est assez drôle parce que justement, cette série, et c'est pour ça que je voulais en parler, elle se déroule aussi dans l'univers de Seinfeld et de Friends. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la série, Paul Reiser, il rencontre le personnage de Kramer, il rencontre même Seinfeld. Donc en fait, on a des sortes de croisements comme ça, parallèles entre plusieurs séries. Et c'est aussi un croisement avec Friends, parce qu'un des persos rencontre Ursula, qui est censée être, je crois, dans Friends, la sœur jumelle de Phoebe.
Ouais.
Donc en fait, c'est trop cool parce qu'on regarde une série et on se rend compte, au bout de la 6e ou 7e saison, qu'elle se déroule dans l'univers d'autres séries qu'on adore. Il y a pas, il y a d'autres séries qui font ça ou...
les Avengers avant les Avengers.
Ouais, ouais, voilà, c'est ça, en fait, c'est un peu les Avengers des séries. Ouais. Mais je sais pas, il y a pas
rien en série comme ça.
Il y a pas beaucoup de séries qui ont fait ça. Enfin, si, en fait, chez AB Productions, ça produit beaucoup.
Voilà. Ouais, ouais. Ouais.
Hélène et les garçons, premier baiser, avec pas mal de crossovers comme ça.
Il y a les abeilles et tout.
Mais les crossovers sur les grosses séries américaines, il n'y en avait pas tant. Et ce que j'aime aussi avec cette série, c'est qu'elle a eu, comme Friends et comme Seinfeld, énormément de guests à l'intérieur. Il y a donc Phoebe, mais il y a aussi Yoko Ono, la femme de John Lennon. Il y a aussi Ellen DeGeneres, il y a Bruce Willis qui a joué dans cette série, Jerry Lewis ou encore Steve Buscemi. Donc il y avait ce truc où, tu sais, comme dans Friends, quand la série devient méga connue, bah, les guests ont envie de venir, et du coup ça fait des épisodes assez exceptionnels. Et voilà, c'est une série qui est drôle, qui est aussi réconfortante. Parfois souvent on parle des films réconfortants, mais il y a aussi les séries réconfortantes qu'on a envie de revoir comme ça, parce que juste à nous mettre dans un bon mood, on met ça avant de dormir et tout. Et voilà, c'est une série qui est assez oubliée, qui est dure à retrouver aujourd'hui. Je crois qu'il y a juste la saison 1 qui est disponible en DVD. Mais ça fait partie des séries qui ont compté aux États-Unis dans cette vibe un peu, justement, Friends, Seinfeld. Et c'est un peu la moins connue des trois, mais ça fait partie de cet univers. Donc si vous aimez Friends, si vous aimez Seinfeld, vous allez forcément aimer Mad About You, qui est une très très bonne série. On va enchaîner avec la série de Johan.
Ah, et ben dis donc, quelle histoire. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment bien Judd Apatow? Alors levez les mains, ceux qui aiment bien Judd Apatow. Bon, il n'y a qu'une personne, super.
Mais trois. Non, mais des gens qui connaissent déjà.
Est-ce que vous connaissez Judd Apatow? Ça, c'est plus simple. Alors là, il y a des gens qui lèvent la main. Bon, très bien. Et ben donc ça tombe bien, parce que je vais vous parler d'une série qui a été dont Judd Apatow est le producteur exécutif. Et cette série que j'adore, c'est une série qui s'appelle Crashing.
My wife slept with somebody else today. I caught her today.
Oh my God.
Sweetest.
I thought you were going to be writing jokes at the library.
What are you doing?
What? Who is this?
Oh boy.
Yeah, oh boy.
Go write some jokes.
Bon alors, Crashing. C'est l'histoire de ce grand dadé là qui est derrière moi, c'est Pete Holmes. Et en gros, c'est un homme qui, en rentrant chez lui le soir, et ben, il va surprendre sa femme en charmante compagnie, en rentrant du boulot, voilà. Et donc là, patatras, tout s'effondre pour lui. Et il prend une décision incroyable. Il va tout quitter pour aller à New York et se lancer à corps perdu dans ce qui n'était jusqu'à présent qu'une passion, le stand-up. Et je sais qu'on aime tous le stand-up par ici. Voilà, effectivement. Et donc, on va suivre Pete à travers ses rencontres, ses bides, parce qu'il va faire beaucoup de bides aussi, forcément, puisqu'il débute, ses réussites, mais aussi dans l'évolution de sa vie sentimentale, parce qu'il faut se remettre d'avoir vu sa femme en plein acte avec un inconnu. C'est jamais quelque chose de très agréable. Je ne sais pas si Mehdi l'a déjà connu. Moi, à titre personnel, c'est quelque chose que je n'ai pas très envie de vivre. Mais bon, voilà. Et donc, on va suivre cette série pendant 3 saisons. C'est 8 épisodes à chaque fois, 25 minutes. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très court. Moi, je ne suis pas un bingeur. Je ne sais pas si vous bingez.
Non, mais justement, alors en fait, le truc, c'est que... Est-ce que dans le public, beaucoup de gens regardent des séries? Vous êtes vraiment accro aux séries?
Ils sont à série mania.
Mais en fait, moi je suis gros... Non, oui, mais c'est vrai. S'ils sont là, c'est qu'il y a une raison, t'as raison. Mais non, mais en fait, moi, j'adore les séries, sauf que... en fait, c'est un vrai engagement, une série. C'est se mettre en relation. C'est-à-dire que si, mettons... Si j'avais jamais vu Game of Thrones, si on me dit regarde Game of Thrones demain, c'est-à-dire qu'il y a toutes les saisons, il y a tous les épisodes qui durent quoi? Ça dure une heure un épisode de Game of Thrones.
Ouais.
Et donc tu sais que c'est ça pendant tes 2-3 prochains mois quoi. Tu dois regarder ça tous les soirs. Et moi j'aime l'idée de regarder des trucs différents chaque soir. Donc il y a un vrai truc où ok, je vais m'engager avec cette série et je vais devoir. C'est pour ça que moi aussi j'aime bien les séries courtes.
C'est peut-être plus engageant de se lancer dans une série que dans une histoire amoureuse parfois. Donc parce qu'on sait qu'on peut durer.
Toujours plus. Début, ça. Mais vous, c'est quoi votre rapport aux séries vous justement?
Ah moi je suis une, j'adore le binge watching justement. Moi je peux me mettre dans un mood et regarder une série en une journée sans problème.
Toi t'enchaînes toi.
Ouais.
Aurélien.
Moi ça a changé je pense. Dans les années 2000 quand il y avait les gros booms des séries dont on parlait, la Prison Break. Et Lost et tout, j'étais vraiment à attendre chaque épisode, chaque semaine. J'étais comme un fou. Le côté cliffhanger, ça me plaisait beaucoup.
J'ai l'impression que ça a changé avec 24, en fait.
Ouais.
Une tournure après 24.
Bah, surtout après House of Cards, là, quand ils ont commencé à balancer les séries en entière, où là, les gens ils disaient: ah, tu fais quoi ce week-end? Bah, je regarde House of Cards, en fait. Ah, ok, tu passes le week-end à ça? Bah, il y a 24 épisodes, mon pote, je suis là-dessus. Et là, j'ai perdu un peu le guide. Parce que moi, au bout d'un moment, je suis un peu comme toi. J'aime bien les films ou alors les épisodes de séries où il y a un début.
Ça t'embête si je parle de Crashing ou...
Je pense que tu peux y aller une fois que ma phrase sera terminée.
Toi, Mehdi, toi, t'es très série documentaire, toi.
Ouais, non, plus particulièrement, j'aime bien moi les séries qui sont un peu qu'on peut regarder d'épisode en épisode sans qu'il y ait forcément le besoin d'avoir su l'épisode d'avant.
Genre Black Mirror.
Exactement.
Ouais, des ouais, ça s'appelle des anthologies, en fait. C'est ça le mot que tu
cherches. Ah, c'est ça le mot, oui, bon, ouais. Voilà, une série d'anthologies.
Et donc Crashing, Joanne.
Ouais, bon, je vais quand même continuer d'en parler, mais bon, voilà. Donc,
Il est susceptible.
Ouais, un peu, franchement.
Il est bourré, surtout.
Et ça, c'est un état quotidien. Et donc, c'est une série, voilà, que j'ai bingé. Moi, je ne suis pas un binger. Et ben, franchement, les gars, je me suis mis dans mon lit à 23h et des poussières, m'attendant à faire un gros dodo. Et puis, en fait, pas du tout. Je me suis endormi à 4h du mat'. Et j'ai saigné les épisodes les uns à la suite des autres. Bon, voilà mon rapport à cette série, puisque tu me posais la question. Bon, maintenant, la question, c'est pourquoi j'aime ça. Vous me posez la question. Déjà, parce que ça montre une approche du stand-up qui est assez réaliste. C'est-à-dire que le mec, il fait des bides. Niveau thune aussi, c'est un peu chaud pour lui. Il va galérer. Il y a un côté doux amer que moi, j'affectionne tout particulièrement. Et il va même squatter des canapes à droite à gauche. Bon, c'est la galère, quoi, vous avez compris. Et puis surtout, il y a des guest stars de ouf. Et parmi les guest stars, c'est le top du stand-up américain.
Alors, il y a qui en guest?
Alors, il y a Didier Gustin.
Jean-Marie Bigard.
Jean-Marie Bigard, pas du tout. Il y a John Mulaney. Je l'ai bien prononcé.
Bien joué.
Voilà. Il y a Bill Burr. Ça va passer par Ray Romano, Emo Phillips, que moi, j'ai découvert grâce à cette série, qui est le roi de l'absurde, en gros, dans le stand-up américain, et qui est hyper drôle. Et puis, vous avez aussi cette meilleure. En gros, tous les mecs que les mecs qui font du stand-up à Paris copient, en fait. C'est pour vous donner un peu l'esprit de ce type de vedette. Et puis, il y a une atmosphère aussi qui est très cool parce que ça se passe à New York. Et c'est le New York qu'on aime, qu'on a envie de découvrir, avec une approche aussi qui n'est pas forcément que de la carte postale. Et ça, c'est plutôt cool. Et puis, on y voit les coulisses du stand-up avec étonnamment une grande fraternité versus l'image qu'on en a en France où c'est un peu on se tire dans les pattes, etc. Bon. Et donc, on les voit dispenser des conseils entre eux. Et ça, pour le coup, c'est hyper bien fait. Bon, et puis, je vais aller très vite sur la musique parce qu'on va retrouver du Arcade Fire, des Smiths, Mac de Marco, Frankie.
C'est votre truc, ça. Cosmos,
Frankie Cosmos.
Que j'adore. Et bon, voilà. Il y a un seul bémol pour cette série. Là, vous allez tous être très tristes. Moi, le premier, c'est que cette série, elle a été annulée au bout de 3 saisons.
Mais ça arrive très souvent, ça, que de bonnes séries soient annulées. Et j'ai l'impression que c'est un peu une ritournelle chez Judd Apatow parce qu'il y avait Freaks and Geeks, parce qu'il a commencé en partie par Freaks and Geeks. Et Freaks and Geeks, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série qui se passe dans un collège avec des mégastars, enfin des mégastars en devenir, parce qu'il y avait Seth Rogen dedans, il y avait aussi James Franco. Donc il y avait pas mal de monde. Et c'est une série qui a été annulée au bout d'une saison. Et pourtant, ça fait partie de ces séries où aujourd'hui les gens se disent: mais pourquoi il n'y a pas eu plus de saisons? Parce que c'était trop bien, en fait.
Et ben là, c'est un peu le même cas de figure. Alors, néanmoins, le dernier épisode de la dernière saison peut faire office de conclusion avec une promesse et une ouverture vers l'avenir. Mais néanmoins, voilà, quand ça s'est terminé, j'étais un peu triste, j'ai déprimé, j'ai mangé un bol de céréales et puis je me suis replongé dans ma morne vie.
J'ai une bonne question pour vous.
Tu manges quoi comme céréales?
Ouais. Alors, c'est pas période. Soit je fais les Chocapix depuis que j'ai vu que c'était indice nutritionnel B. En fait, c'était bon pour la santé.
C'est B? Ah ouais.
Je suis pas sûr que ce soit très fiable. Hein.
C'est du blé complet.
Oui, bien sûr.
Et donc, ouais, B comme blé.
Et puis regardez, après, vous êtes fort comme tonton, quoi. Donc allez-y, mangez les Chocapix.
Moi, j'adore les Frosties.
Oui, mais ça, c'est ton côté basket.
Qui a envie qu'on enchaîne sur les céréales pendant 10 minutes?
Les Frosties. Mais
c'est vrai que les Frosties, c'est bien.
Moi, je suis très chériose.
Mais t'en as mangé
ça? C'est pas mal.
J'ai mangé ce matin. Vous voulez tout savoir, j'ai mangé des Frosties ce matin. Non, j'ai une bonne question pour vous. Est-ce que vous avez en mémoire comme ça une série où vraiment, quand vous l'avez terminée, ça vous a fait de la peine en mode: ok, je quitte quelqu'un de ma famille, limite?
Ouais, moi j'en ai une.
C'était quoi?
Soprano.
Ouais.
Soprano, Soprano, ça a accompagné ma vie entre 1999 et 2006. Et je vais vous le dire, je peux vous le redire. Le dernier épisode, j'ai toujours pas vu. Parce que pour moi, quand je verrai le dernier épisode, Soprano sera plus ma famille.
Ah, c'est drôle ça.
Alors qu'à un moment, concrètement, je parlais comme eux et je pensais que Tony Soprano, c'était mon oncle, tu vois.
Et tu penses que tu vas le voir, ce dernier épisode, un jour?
Bah maintenant, tu vas me le raconter, vu que c'est Spoilerland ici, tout le monde te raconte tout. Donc maintenant, je la connais, là, je connais toutes les images.
Pourquoi tu regardes pas alors?
je sais pas, c'est presque un délire de religion, tu vois. Genre, je sais que quand je vais regarder cet épisode, Soprano pour moi sera terminé. Genre, alors que il y avait un truc où c'était la série que je faisais un peu découvrir à tout le monde, parce que c'était à l'époque où ça passait sur Canal Jimmy et tout. Enfin, c'était pas comme maintenant les séries, tu vois. Donc à chaque fois que j'avais un nouveau pote qui arrivait dans mon cercle, je disais, t'as vu Soprano? Ok, vas-y, on se remet toutes les saisons. Et je recommençais à la une jusqu'à ce qu'il y ait la dernière qui passe.
Ah, tu l'as maté plusieurs fois?
Ouais, ouais. C'est la seule série que j'ai vue. J'ai vu les 5 premières saisons, je pense, bah, la première 10 fois, 9 fois, enfin, tu sais, en dégressif, parce que chaque fois, je recommençais à zéro quand il y avait une nouvelle saison qui arrivait. Mais la dernière saison, déjà, elle m'a rendu très triste, parce que sans spoiler à mort, il y a beaucoup de personnages qui partent au fur et à mesure. Et les 3 derniers épisodes, j'ai mis très longtemps. Les 2 derniers, il y a des trucs, moi, ça m'a fendu le cœur. J'ai arrêté de parler avec des gens pendant longtemps. Et le dernier, je voulais pas. Et même, tu vois, maintenant qu'en plus, James Gandolfini, il est décédé et tout, pour moi, Tony Soprano, ça restera quelqu'un de ma famille. Donc,
et
je veux pas le voir.
Déjà, beaucoup s'accordent à dire que très souvent, il y a cette question, genre, c'est quoi la meilleure série de tous les temps? Et très souvent, les Sopranos, ça arrive dans les
toits. Ouais, Sopranos, The Wire, toute cette période-là d'HBO, il y a trop de choses fortes. Parce que c'était quand même une série qui sortait toutes les semaines. Il n'y avait pas ce côté, genre, on te balance 20 heures d'un coup et tu te débrouilles. Et en même temps, il y avait vraiment un truc où il creusait les personnages. C'était la première fois où il creusait autant des personnages avec beaucoup de profondeur, je trouvais. Et bah ouais, Pauly, Chris, moi, pour moi, c'était des gens de ma famille, vraiment. Genre,
il y avait et c'était bien à Soprano, parce qu'il y avait un côté chronique de la mafia. C'est-à-dire qu'en fait, tu vivais le quotidien avec ces gars. C'est incroyable. Je vais arriver à te convaincre, tu vas la regarder un jour.
Sarah.
T'as jamais regardé?
Non, en fait, je me suis lancé dans les Sopranos, mais j'ai jamais trouvé le bon mood. Parce qu'en fait, c'est aussi une histoire de mood, les séries. Et j'ai le coffret encore sous blister, Blu-ray, etc. Je sais, il est là, il m'attend, et il faut que je me lance, mais j'attends le bon moment pour ça.
Après, pour mettre dans le contexte, là, si tu revois la première saison, c'est vrai que ça fait un peu vieillot, son histoire de canard et tout. Moi, je l'ai revu là, il y a pas 30 ans, Sopranos.
J'avais commencé par
et
ça.
Et c'est vrai que maintenant, c'est un peu plus dur à se mettre dedans. C'est un peu comme les premières saisons de Curb et tout. Il commence à y avoir un gap de qualité, on va dire, d'image, quoi.
Sarah, toi, il y a une série comme ça où tu t'es dit vraiment, je quitte?
Moi, je pense à Gossip Girl.
Ouais.
C'est une série que j'ai découvert quand j'avais peut-être 16 ans, un truc comme ça, et ça m'a suivi pendant des années, parce que je sais plus combien il y a de saisons, peut-être 6, un truc comme ça. Et du coup, c'était vraiment un rituel, on en parlait quand j'allais au lycée, etc. Ouais. Donc, il y a eu tout un univers qui s'est créé autour. Je dirais pas que c'était ma famille, mais il y avait un truc d'attache, quoi. Il y avait un truc vraiment d'attache au personnage, où tu te projettes un peu dans certains personnages, etc.
Toi, Joanne, ça te l'a fait pour une série aussi?
Ouais, Art Laker à vie, figure-toi.
Ouais.
J'adorais cette série, puisque ça a accompagné mes sorties du collège et du lycée. C'est de vous dire mon âge.
Ouais. C'est pour ça que tu ressembles à Drazik.
Ah putain.
Ouais,
I wish.
Drazik, ouais.
Mais t'as dit quoi toi?
Je dis oui, tu ressembles à Drazik.
Oui, il y a un petit air de famille effectivement. Mais
Drazik, c'était le beau gosse de la série.
C'est le beau gosse. Bah, la preuve, je suis beau gosse de lui. Mais ceci étant dit, ouais, j'adorais cette série. Tu sais, ça t'accompagnait, tu rentrais chez toi, tu te faisais un sandwich de pâté à 5h de l'après-midi.
Bon.
Un sandwich de pâté. Qu'est-ce que c'est cette histoire?
J'ai pas ça vous les gars. Et donc ouais, j'adorais cette série. C'était charmé quoi. Ouais.
Toi, t'as eu ça Mehdi pour une série?
Non, moi j'ai la chance d'aimer regarder la série Malcolm.
Ah.
Et donc c'est cool, c'est que là j'aime bien regarder des fois plusieurs fois les épisodes.
Alors,
pas ce sentiment de deuil de.
Malcolm, c'est intéressant parce que ça continue de passer à la télévision française. Moi personnellement, j'adore cette série et en fait de toutes les séries que j'ai regardées dans ma vie, je crois que c'est la seule où je ne me lasse pas. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes, je me souviens, il y a l'épisode du bowling qui passe vraiment en boucle à la télévision quoi. Et je pourrais regarder 10 fois cet épisode ou d'autres.
On se fait happer à chaque fois.
Ouais, mais en fait,
on se dit la flemme de revoir Malcolm et en fait.
Mais on connaît tout par cœur et on le laisse quoi. C'est assez incroyable. Vous avez en mémoire comme ça une série qui fait ça pour vous? Vraiment où vous pouvez la regarder en boucle? Je crois qu'il y a que Malcolm.
Seinfeld, les Simpsons, moi je pense.
Non mais Seinfeld, j'aime bien.
Simpsons un peu, ouais, ça va.
Même si je laisse, si je laisse reposer de temps en temps, mais voilà. Seinfeld, je peux les.
Ouais, mais tu vois, tu laisses reposer alors que Malcolm, en vrai, tu pourrais regarder ça tous les jours quoi.
Faux.
Même quand tu manges le midi, il y a ça, etc. Ouais, tu regardes et puis genre, c'est juste cool quoi. T'avais quelque chose d'autre à dire sur Crashing ou pas?
Non, regardez-la. Voilà, elle est dispo sur Amazon Prime via le pass Warner. 3 saisons, dépêchez-vous. Vous avez rien de mieux à faire ce soir, a priori. Bon, bah, regardez-la. Voilà.
Aurélien.
Qu'est-ce que t'es hautain, toi?
Ouais, un peu. on est parisiens. Voilà.
Aurélien, ta série?
Moi, j'ai aussi pris le camp de ceux qui voulaient parler d'une série de leur enfance. Et je voulais parler de la série qui a traumatisé une génération, je pense, qui est V. V, donc c'est une série qui sort dans les années 80, début en 83. À la base, ce qui est fou, c'est que moi j'en ai un délire, genre ça a duré des années, j'ai vu plein de fois les épisodes. C'est faux. En fait, il y a eu une mini-série de 2 épisodes, puis derrière 3 épisodes, et ensuite une saison avortée de 19 épisodes. Donc en vrai, en tout, on en a vu 25 et c'est tout, il n'y en a jamais eu d'autres. Mais le truc était tellement fort que, donc en gros, l'histoire, c'est des extraterrestres qui débarquent sur la Terre. Ils ont l'apparence humaine, en fait, et ils disent qu'ils sont là pour, bien sûr, nous aider à sauver notre planète parce qu'ils se rendent compte que écologiquement, on est nul. Donc, pour l'instant, ils ont raison. Et, sauf que, bien sûr, c'est pas ce qui va se passer. Et en fait, on se rend compte, un peu en mode complot, que quand on commence à creuser derrière les visiteurs, c'est des gros lézards, en fait, qui mangent des énormes souris et qui sont là pour nous bouffer, finalement, et nous mettre dans des petits endroits pour qu'on soit leur garde-manger. Et donc là, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dans la série tout un parallèle avec l'occupation et finalement les nazis, et ce qui est une autre passion que j'ai dans le cinéma en général.
Pardon,
et dans les séries.
Il l'a refait.
J'adore tout ce qui peut parler de films autour de la guerre, et surtout ce qui peut se passer dans l'occupation quand il y a de la résistance et quand il y a des collabos. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette série où finalement, très rapidement,
Papa Schultz, t'aimes bien?
Ouais, Papa Schultz, j'aime bien. Ouais, mais c'est pas pareil, c'est des prisonniers et tout. Alors, ça va jamais s'arrêter cette chronique si tu me lances là-dessus.
Mais, d'ailleurs, en parlant de Papa Schultz, alors il y a des digressions, etc. Mais est-ce que quelqu'un a regardé cette série sur Paramount qui raconte l'histoire du parrain? En fait, ça raconte comment a été fait le
parrain. Ah ouais, The Offer.
C'est assez extraordinaire. Ouais. Sauf qu'en fait, ça raconte pas simplement la création du parrain, ça raconte la création de tous les films ou séries dans les années 70.
Ouais.
Et en l'occurrence, ça raconte comment a été fait Papa Schultz. Mais vas-y, je te laisse reprendre sur.
Ouais, parce que sinon, on parle de.
Bien sûr.
Ça, c'est foutu. Sinon, moi, ce que j'ai vu qui m'intéresse, c'est qu'après, dans toute la série, donc il y a tout ce délire de la résistance. Comment l'humanité, finalement, arrive à se placer en résistance, et comment elle se place aussi contre les collabos, ceux qui considèrent que les visiteurs sont un bienfait pour l'humanité, etc. Et comment, en fait, finalement, les humains vont commencer à se battre contre les humains. Un peu ce qui s'est passé pendant nos périodes les plus sombres au niveau mondial. Donc, moi, j'aimais bien ce parallèle. En plus, on voit dans leurs images que c'est très aussi leurs sigles, etc. Il y a beaucoup de rappels avec ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ce mélange de films un peu, enfin, d'univers très à la Carpenter, à la Verhoeven, le meilleur de la science-fiction des années 80, avec un délire très film de guerre, avec des lasers, des soucoupes volantes, et un univers très dur, en fait, où il y a plein de gens qui meurent ou qui sont kidnappés, qui disparaissent dans des camps et tout. Ça m'a toujours, ça s'est resté dans mon univers quand j'étais petit. Et même si je pense que les lézards, en fait, on les voit pas tant que ça. Moi, j'avais l'impression qu'à chaque épisode, on voyait un lézard.
C'est vrai, ça.
Et qu'il y avait des gens qui se faisaient tuer et tout. Après, il y a des scènes extrêmes dans cette série, parce qu'il y a quand même un moment où il y a donc une humaine qui a une relation avec un visiteur, et elle accouche d'enfants, dont un qui est donc proto-humain, mais qui a aussi des pouvoirs V, et aussi un petit lézard. Et là, ça devient carrément alien, sans vouloir vous spoiler. Il y a vraiment des trucs, c'est... À la fois, c'est inquiétant, en même temps, c'est vraiment maintenant kitsch. Et maintenant tu revois ça, tu te dis à quel moment ça m'a fait peur quand j'étais petit, tu vois. Mais je sais pas, il y a un mélange comme ça. J'adore en fait les films d'anticipation et d'horreur des années 80, un peu comme je disais à la Verhoeven ou à la Carpenter, les Big Trouble in Little China, où des fois t'y crois pas, mais en fait c'est tellement fou dans la réal et dans les effets spéciaux un peu analogiques, quoi, pas du tout numériques, que c'est plus engageant, je trouve, pour les gens. Il y a des méchants incroyables. C'est la première fois qu'il y avait justement Diana.
Ah, Diana.
Incroyable dans son rôle de vraiment femme de pouvoir, mais hyper dure, qui essaye d'avoir des relations avec les humains. En même temps, tu t'apprends qu'il y a toute une pyramide dans la structure des V, quoi. Bref, je trouve que c'est fou que donc, le mec, là, Kenneth, ait réussi à créer un univers aussi large avec finalement très peu d'épisodes. En 25 épisodes, il a créé un univers qui est quand même...
Alors justement,
c'était très longtemps. Et après, il y a eu un reboot dans les années 2000 qui a duré beaucoup plus longtemps finalement que la série originelle, dont on se rappelle quasiment pas. Mais l'univers est tellement fort que je pense que n'importe quelqu'un qui a regardé la télé dans les années 80 se rappelle quelque part de ces images, de cet univers, alors que finalement, ça a été très court. Diffusé sur la 5 à l'époque.
Mais alors justement, il y a eu quoi comme série de science-fiction qui ont cartonné? On connaît tous Star Trek. Par la suite, je sais que
Star Trek, c'est un univers.
Bien sûr,
c'est fou.
Il y a eu Battlestar Galactica aussi qui a bien.
Ouais.
D'ailleurs, on m'en parlait en bien à l'époque, j'ai jamais réussi à me lancer, mais à ce qui paraît, c'est une bonne série.
Ouais, moi j'étais fan de Babylon 5 aussi.
Ouais, j'allais dire. Mais il y a quoi comme série de science-fiction qu'on connaît? Parce que finalement, c'est assez rare en vrai.
Après, ça dépend si c'est de la science-fiction pure, genre l'espace et tout, ou sinon t'as tous les délires un peu anticipation, genre Supercopter, Tolerance.
Est-ce que c'est vraiment de la
science? Non, ça n'a rien à voir.
Bah, je sais pas,
est-ce que c'est pas plus
un mec qui se transforme en...
C'est plus réaliste quand même, l'hélicoptère, super.
C'est réaliste, oui, bon. Non, tu vois, par exemple, Manimal, une série des années 80. Tout le monde sait ce que c'est Manimal. Combien il y a eu d'épisodes, les gars?
7.
8. 8 épisodes. Genre, il n'y a même pas eu une saison entière. Pourtant, tout le monde se rappelle de la tronche de Manimal et le mec qui se transforme en panthère.
En fait, le problème de la science-fiction en série, c'est que forcément, ça nécessite des budgets immenses pour chaque épisode.
Pour le coup, c'était un peu kitsch.
Et, ça se ressent, ça devient cheap un peu.
Et puis après, surtout, j'ai revu il y a pas longtemps alors une série qui date hein, des années 60-70 qui s'appelle Cosmos 1999.
Ouais.
Et même si c'est hyper kitsch dans l'esthétique, tu vois que c'est fait avec du carton, ils sont en pyjama, bon bref. Mais en fait, les thèmes abordés, encore aujourd'hui, sont actuels. Et du coup, tu arrives à passer outre, tu vois, le côté.
Ça, c'est comme Star Trek.
Et Star Trek, c'est la même chose. Et en vrai, ça, tu vois, tu peux pardonner ça. Mais c'est vrai que ça demande des budgets qui sont colossaux pour faire de la SF, des vaisseaux réalistes, crédibles et tout.
Après, aujourd'hui, je pense notamment à The Mandalorian, par exemple. Il y a pas mal de séries de science-fiction.
Mais t'as vu ce qui s'est passé récemment? J'avais vu sur Twitter, en gros, il y a des gens qui ont réédité graphiquement des épisodes. Alors, je crois que c'était pas Mandalorian, mais en tout cas, c'était une série de cet univers sur Disney+, où en gros, c'était tellement mal fait qu'un gars avait réédité les effets spéciaux d'un certain passage.
Ah ouais?
Et il y avait un peu côté un petit côté bad buzz de bon bah si des gars sur Twitter sont obligés de refaire vos effets spéciaux, c'est que
ah, c'est la foire.
Ouais. Ouais, vraiment. Et en plus c'était mieux quand le gars l'a fait, quoi, tu vois. Okay. C'était assez
Mandalorian, ils étaient assez forts parce que c'était un peu comme Star Trek, ils ont pris le parti pris de réaliser ça comme un western en fait. Donc Star Trek, ils expliquent bien au départ que la série, ils l'ont vu comme les westerns des années 50-60 à la télé, où en fait t'avais un début, une fin, un mec qui débarquait dans une ville où il y avait un problème, il allait régler le problème. Sauf que là ils se sont dit bah c'est plus une petite ville dans un désert, c'est une planète, et on débarque, il y a un problème entre des gens, ou il y a un truc qui se passe pas bien, et à la fin de l'épisode il va régler ce problème. Et Mandalorian, ils ont fait un peu le même délire. Exactement. Et ça te donne un petit peu plus de latitude en termes d'univers. Ça va plaire à Mehdi qui peut suivre les épisodes, t'en ratin, t'as vrai. Pas grand chose qui passe de l'autre. Et en même temps, t'as un peu moins d'effets spéciaux pour la télé.
On arrive à la moitié de nos recommandations. Du coup, j'ai profité de cette moitié, une sorte de mi-temps comme ça, pour faire un tour de table et vous demander quelle série vous regardez en ce moment. Qu'est-ce que vous regardez en ce moment sur les plateformes?
Je viens de le terminer, alors après tout le monde, 20 ans après tout le monde, White Lotus.
Ah oui, il me parle beaucoup de White Lotus.
Je me suis régalé. Mais
bah c'était il y a 5 ans, ça.
Alors, ça parle de quoi, rapidement, White Lotus?
C'est les vacances qu'on aimerait tous vivre, ou presque. Ça se passe dans un hôtel de luxe.
Tu aurais dit ça, toi?
Ouais, franchement, il y a une partie que j'ai envie de vivre.
Ok, d'accord.
Mais je ne dirai pas laquelle.
On a compris, hein.
Oui, effectivement. Mais donc, il y a 2 saisons, c'est 8 épisodes. C'est hyper cool, c'est bien foutu. C'est HBO, je crois, hein, je pense, ouais. Et ça se passe, c'est des vacances de milliardaires, dans un, en tout cas de gens très aisés, dans un resort. Et le premier, c'est à Hawaï. Le second, c'est en Italie.
Je crois que c'est avec Madame Stifler.
Exactement. Qui est,
ah ouais, c'est vrai.
Qui est incroyable, mais qui m'a pas tant marqué que ça, finalement.
C'est ça le personnage qui fait les 2 saisons, d'ailleurs.
Exactement. Il y a aussi Sydney Sweeney, qui est très bien. Et puis, il se passe plein de choses. Et en fait, il y a un côté doux amer, encore une fois. On revient sur ces thématiques que moi, j'aime bien. C'est des tromperies, c'est les mesquineries entre les gens. C'est top. Franchement, fonce.
Sarah, tu regardes quoi en ce moment, Sarah?
Moi, je suis en train de regarder The Bear sur Disney+. J'en ai entendu énormément parler de cette série. Je ne sais pas si tout le monde connaît ou pas, mais en gros, c'est l'histoire d'un mec qui va récupérer le restaurant en faillite de son frère décédé. Il va essayer de remettre le truc en forme, quoi. Lui-même, il est issu d'un restaurant, de la restauration un peu classe, etc. Bref. Donc, je crois au 3e épisode. Le rythme est bon. Le casting est très bon, mais je crois que je suis pas super sensible à la thématique de la cuisine, et du coup j'accroche pas forcément, mais je tiens quand même parce que j'ai eu des excellents retours. Donc.
T'es pas un fin gourmet, toi, aussi? T'es une fine gourmette?
Alors, j'aime pas cuisiner, mais j'adore manger. Mais regarder un truc sur la cuisine,
je me permets, c'est quoi le plat que tu cuisines le mieux?
Bonne question.
Merci Jean-Baptiste.
Franchement, c'est une très bonne question, même, je ne sais pas. J'aurais te dire.
Nemo, on sait que c'est des légumes à l'eau. Un jour, il nous l'a confié. Nous...
Je fais des légumes bouillis.
Légumes bouillis.
Non, c'est des légumes que je prends direct dans la terre et je les mange comme ça, sans les laver.
C'est le moment mou du podcast.
C'est quoi, toi, Joanne, c'est quoi, toi?
Ouais, c'est la paella.
Ah, ça y est. Genre, tu fais la paella.
Les origines espagnoles.
Bah oui, en
vrai. Toi, tu regardes quoi, Aurélien, en ce moment?
Je me disais, est-ce que tu peux demander à Mehdi d'abord, parce que j'étais en train de réfléchir, mais sinon là en ce moment je me retape Prison Break, donc c'est pas passionnant non plus.
Oh bien.
Si. Mais avec ma meuf, je sais pas, on a eu une passion à un moment, on s'est dit tiens, Prison Break c'était bien, non? Franchement, ça nous rappelle quand on était
fan de Prison Break.
Moi aussi.
Et on s'est retapé toute la saison 1, toute la saison 2.
Alors justement, je vais vous poser cette question, mais moi Prison Break c'est la première série, je crois, dans ma vie où il fallait que je binge-watch tous les épisodes,
ouais.
Parce qu'il y avait tellement de tension, en l'occurrence la saison 1, je sais rien de la saison 1, il y avait tellement de tension que j'étais là, genre, je me souviens que la première saison, je l'ai terminée de minuit à 6h du mat', Ouais. J'ai tout maté d'un coup parce que ça m'avait rendu fou, quoi.
Ah, je comprends.
Et je me souviens qu'à l'époque, alors c'était, Internet n'était pas comme aujourd'hui, parce que Prison Break, c'était quoi, 2005, 2004,
2006,
2005, ouais, ouais. Ça. 2006. Je me souviens que quand une saison se terminait, c'était méga chiant parce qu'il fallait attendre un an et demi avant que ça revienne. Ouais. Et j'allais sur les forums pour essayer de trouver des infos de qu'est-ce qui va se passer dans la saison 2, etc. Prison Break me rendait fou, vraiment.
Moi, ce qui m'a passionné, c'est genre, c'était vraiment le délire d'un épisode par semaine. Donc là, tu les revois à la suite et tu te rends compte à quel point les scénaristes, il y a un moment où ils ont lâché l'affaire sur une partie de l'histoire en se disant bah, en fait, on s'en fout, les gens ils vont avoir oublié parce qu'ils regardent toutes les semaines en fait. Donc il y a une partie, il y a des personnages, ils vont disparaître, ils vont jamais s'en rappeler ou on va les remettre plus tard. Et là, quand tu revois tout à la suite, tu te rends compte que c'était vraiment des gens qui écrivaient au fil de l'eau, tu vois. Surtout à partir de la saison 2, où il y a un moment où il y a des choses, c'est incompréhensible et en même temps, il y a des trucs, d'un coup, ça coupe et t'es là genre. C'est vraiment très à la 24, tu vois, 24 heures chrono, où genre, je pense qu'il y avait ce truc de comme créer un peu de la drogue, tu vois, pour que tu reviennes à l'épisode prochain, où tu te dises qu'est-ce qui va se passer avec ce truc.
Alors, ça vous l'a fait pour quelle série ça? Parce que moi, c'est vraiment ce truc d'être accroché sur une série et vouloir tout voir. Moi, ça me l'avait fait avec Prison Break, Breaking Bad et Dexter. Dexter, j'avais vu ce truc.
Ah ouais?
Ouais, c'est vrai. Sur la saison 2 de Dexter, j'étais un peu comme un dingue. Toi, Sarah, ça te l'a fait pour quelle série ça?
Breaking Bad, plus soin.
Ouais. Ouais. Ouais, c'est assez unanime, toi.
Shield.
The Shield.
Ah ouais, The Shield aussi, moi.
Mais j'étais comme un ouf, quoi.
Ça te l'a fait, toi, Midi, pour une série, ça?
Bah, pour la dernière que j'ai regardée, donc D'Argent et de Sang.
Ouais. Ok. C'est un fou d'Argent et de Sang, lui.
Ok.
J'aime beaucoup Ramsey dedans.
Ouais, il est
je crois qu'on beaucoup, peut-être, qui ont regardé la série, Ramsey, il est super dedans. Non.
Tout le monde s'en fout. Ça raconte quoi? Ça raconte quoi, Midi?
Vous aimez Ramsey?
C'est une série sur la fameuse histoire avec Marco Mouli, tout ça, tu sais, la Tasse
Carbone.
Et il y a un Vincent Lindon extraordinaire, ce qui paraît énorme. Ramsey et Lindon sont fous dans la série.
Okay. Alors que les autres acteurs, bof.
Non, les autres acteurs.
Non, mais Vincent Lindon, c'est vrai qu'il capte l'écran quand même. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus sur Vincent Lindon au moins?
Qui a un truc à dire sur Vincent Lindon? C'est genre.
Ok, on a la moitié de ce podcast, donc on va enchaîner avec une autre série que va conseiller Mehdi. Qu'est-ce que tu vas nous conseiller, Mehdi, comme prochaine série?
Alors, est-ce que je repars aussi sur une chanson?
Non, je pense que...
Non. Non, mais je mise tout sur le monsieur, je sais qu'il est bon. Je vais le faire juste pour lui. Voilà, ça t'apprendra. 3, 4... Oui. Magnum.
Quelqu'un a trouvé vraiment.
C'est ton gars, lui.
C'est un miracle.
Il n'y a que lui qui peut trouver ton
délire.
C'est un miracle, un gars.
Ils sont forts.
Ok, tu vas nous parler de Magnum.
Il ressemble à qui, Magnum Tom Selleck? Il ressemble à qui, au juste, Tom Selleck, là, quand on le regarde comme ça? Et bien, il ressemble, en fait, à...
À qui?
Bah, toi.
Ah oui?
Ah oui.
Ah bon?
Non, mais en vrai, c'était censé être l'Indiana Jones à la place d'Harrison Ford. C'est une vraie histoire,
ouais,
ça.
Ouais, c'est vrai.
En fait, ce qui est assez fou, alors, c'est une histoire qui est assez connue, quand même, mais il a passé les auditions pour être Indiana Jones, donc Spielberg lui fait passer les auditions, et en gros, Spielberg le choisit, c'est-à-dire que son choix arrêté est... j'ai oublié le nom de Magnum. C'est Tom Selleck. Donc c'est Tom Selleck. Et du coup, Tom Selleck a dit, j'ai un contrat avec une série là, que je vais tourner qui s'appelle Magnum. Ils ne veulent pas me libérer. Et du coup, ils ont fait un autre casting. Ça a été Harrison Ford. Et c'est assez fou quand même de se dire, il a été méga connu avec Magnum. Après, il a joué dans Friends, le petit copain de Monica. Mais c'est assez fou de se dire que tu as raté Indiana Jones pour Magnum quand même.
Imagine, la série, elle ne marche pas.
Bah, c'est ça. Dégue. Mais heureusement que c'est devenu culte. Alors c'est devenu culte, Mehdi, cette série.
C'est devenu culte. Alors ça se passe dans une ville où... Pourquoi j'aime bien Magnum? Parce que déjà, ça se passe dans une ville où j'ai jamais mis les pieds. Et vous aussi. Cette fois-ci, et tu n'y es jamais allé. C'est à Honolulu, à Hawaï.
Ah.
Est-ce que quelqu'un est parti à Honolulu?
On a tous envie de partir.
Ah voilà, on a tous envie de partir là-bas.
Lève pas trop la main là, j'avoue.
Donc Tom Selleck, qui bon, Magnum, Thomas Magnum, donc c'est un détective privé. Donc c'est très simple. De toute façon, la série Magnum, c'est quasiment uniquement Tom Selleck qui porte la série à lui tout seul. Donc c'est
et sa voiture.
J'ai cru que tu allais dire qu'il porte des chemises en fleurs. Parce que c'est aussi que ça.
Oui,
la
oui. Alors très connu par rapport à son style vestimentaire, short et chemise en fleurs. Et puis surtout sa Ferrari. Alors sa Ferrari, moi, ça fait... Moi, j'ai pas le permis. Je m'étais toujours dit, le jour où j'aurai les moyens de m'acheter une Ferrari, je passerai le permis. Eh bien, aujourd'hui, j'ai les moyens.
Dans ce podcast.
Non, mais attends, on est trois à pas avoir le permis, là. T'as le permis, ça?
Ouais, je l'ai.
Soit tu l'as. Joanne, tu l'as pas?
Non,
mais trois losers.
Ouais, c'est le pire, moi, parce que...
Est-ce que les gens qui n'ont pas le permis peuvent lever la main, s'il vous plaît?
Oh, oh là, il y a du monde, là, par contre.
Ah, mais demande leur âge, ça se trouve.
Il y a 15 ans, le frère. Il y a quelques losers.
Il y a que des mineurs sur le bout de la main.
Juste qu'il a 15 ans, là, c'est vrai.
Non, mais avant,
il a 20 ans.
Non, mais avant, il y avait ce truc où c'était mal vu de ne pas avoir le permis. J'ai l'impression que ça se calme un peu. Moi, aussi, j'avais des repas de famille où vraiment j'étais l'homme à abattre. Quoi. Oh,
t'étais pas un mec, en fait.
Oui, voilà. Non, mais j'étais juste une merde de ne pas avoir le permis. Quoi. Alors qu'en vrai, est-ce qu'on est autant.
Franchement, ça sert à rien. On est venu à Lille en métro, gars.
Ouais, on est venu en train, on est très bien.
On est venu à Lille en métro. Maintenant, il y a des trottinettes électriques.
Métro puis train. Enfin, voilà, tu vois.
On peut faire Paris-Marseille.
Ça dépend aussi où t'as grandi.
Exactement. Il y a ce truc où quand t'habites à la campagne, t'as ton scooter à 16 ans, tu vois.
Enfin, la campagne, les gars, c'est pas Paris et la campagne. Oui. Il y a des grandes villes aussi, ça arrive. Lille, c'est une grande ville, par exemple.
Oui, mais je suis sûr qu'il y a plein de Lillois qui prennent le tramway ou qui prennent.
Il n'y a pas besoin d'avoir la voiture à Lille.
Oula.
Ouais, ils sont pas d'accord avec toi.
Là, tu t'engages quand même sur des positions assez dangereuses, je pense.
Oui, donc Magnum, alors.
Il n'y a pas de Ferrari à Lille. Donc, non, mais voilà, c'est une saison de. Donc, c'est une série de 8 saisons qui a commencé dans les années 80 et qui s'est terminée début 90. Oh, mais regarde-moi ce style.
Alors, moi, c'est terrible.
Il a son poteau avec l'hélicoptère aussi.
Ouais, moi, j'avais acheté. Quand j'ai commencé à avoir un certain pouvoir d'achat, je me suis offert des chemises à la McDonald's et j'étais tout fier.
Oui, mais ça fait pas pareil. Quand
Et un jour, je mets la chemise un peu ambiance McDonald's, je pars de chez moi, j'étais chez mes parents à l'époque et ma mère, elle me fait putain, on dirait Carlos. et pourtant, à l'époque, j'étais comme ça.
Alors, c'était pas l'envie escomptée, c'est pas ça que tu voulais quand même.
Non, moi, je voulais ressembler à McDonald's.
McDonald's, ok, pas, voilà,
pas à Carlos.
C'est l'autre homme des îles, qu'est-ce que je te dise.
Ouais.
et donc, t'es fou de cette série.
Ouais, j'adore cette série. Encore une fois, c'est une série où on n'a pas besoin de connaître vraiment, de rire tous les épisodes pour comprendre.
Oui, tu peux les choper.
Un par un.
Et c'est quand même Higgins, c'est ses chiens, ça c'est cool aussi.
Ouais, qui est son majordome.
Ouais, et du coup, c'est pas. C'est le genre de série qui est difficile aussi à trouver parce que je crois que c'est. Toutes ces vieilles séries comme ça, elles passent à la télévision, mais pour se les choper, c'est assez compliqué. Ou alors en DVD, mais il faut acheter l'intégrale avec.
Oui, tu peux acheter.
Des saisons, ouais, ça, c'est une erreur.
Un truc que j'ai jamais compris, le mec est détective privé.
Ouais.
Il faut rien, enfin pas grand chose. Il a une Porsche, il a un majordome.
Il a une Ferrari, mec.
Et des fois, il y a un mec qui vient le chercher en hélicoptère, avec qui ils ont fait le Vietnam. C'est quoi cette histoire, les frères?
C'est un ancien commandant du Vietnam, je crois. C'est un ancien.
Et donc, il a fait fortune en tuant des gens dans la jungle.
Tu poses trop de questions.
Pourquoi tu cherches le réalisme là-dedans? Rêve un peu.
Sarah, ta deuxième série, ça. On enchaîne avec ça.
Ma deuxième série s'appelle Kingdom. Alors, je ne parle pas de la série coréenne d'épouvante, je parle de la série MMA, autour du MMA avec Frank Grillo et Joe Jonas, que vous connaissez certainement. Et donc, dans cette série qui se découpe en 3 saisons, on suit le personnage d'Alvi Kulina, donc, qui est incarné par Frank Grillo. C'est un ancien champion de MMA à la tête de sa propre salle d'entraînement dans le quartier de Venice à Los Angeles. Une salle au bord de la faillite dans laquelle il entraîne une nouvelle génération de combattants, dont ses fils Nate, qui est joué donc par Joe Jonas, et Jay. Et d'ailleurs, Jay, comme son père, a des très gros problèmes d'addiction, ce qui complique pas mal leur relation. Et donc, dans cette série, on est vraiment plongé dans un drame familial avec les secrets de famille, la mère divorcée qui a sombré dans la prostitution, les problèmes d'argent, d'alcool, de drogue, le retour des fantômes du passé qui viennent bouleverser le peu d'équilibre de cette famille dysfonctionnelle. Et honnêtement, ça fait 10 ans que je me pose la question pourquoi cette série n'est pas connue en France, en fait.
Ouais,
surtout vrai. Aujourd'hui, maintenant que le MMA est légalisé et qu'il y a une vraie hype, en fait, autour de ce sport.
Ouais, grave.
Et je pense que ça vient du fait que les acteurs au casting sont très peu connus.
Mmh. Y a ça, et puis c'est sorti peut-être un peu trop tôt. Sortait maintenant, vu la...
Il y aurait plus d'engouement, possiblement.
Ouais, je pense. Là, à l'époque, aux États-Unis, le MMA, c'était déjà fat.
C'était déjà énorme, c'est vrai.
Et en Europe, toi, comment t'as découvert cette série si elle n'était pas vraiment accessible en France?
Parce que j'aime bien les sports de combat.
Alors, la petite info sur Sarah, c'est qu'elle fait du MMA.
Je ne fais pas du MMA, j'ai fait de la lutte à livrer.
Oui, d'accord.
La lutte à livrer.
Grappling.
C'est quoi de la lutte à livrer?
C'est un sport brésilien et c'est du grappling, en fait. C'est du combat au sol. Voilà.
Ok. Donc, si on se bat au sol, tu me bats. Concrètement.
Je sais pas si je dirais ça, mais si tu veux qu'on fasse une démonstration.
Non, ça va.
Après le podcast.
J'ai pas envie. Voilà. Donc, t'adores cette série, toi.
J'adore cette série. Je trouve ça dommage, justement, que les gens ne s'intéressent pas forcément à ce casting, parce qu'au final, c'était plutôt des bons acteurs. Je trouve qu'ils sont assez charismatiques.
Ouais, Frank Grillo, c'est le moment où il commence à devenir...
Exactement.
Il est top.
Il est vraiment pas mal. Et en plus de ça, ils ont fait appel à pas mal de sportifs, de réels sportifs. Donc, les combats sont authentiques, assez réalistes, et vraiment, je vous la recommande encore une fois.
Alors du coup, c'est étrange, parce que là, j'ai l'impression que l'UFC, le PFL, tout ça, ça n'a jamais autant cartonné que maintenant, et pourtant, personne ne parle de cette série.
Bah, c'est pour ça.
C'était il y a longtemps.
Après, 2014. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a un petit peu... Et encore une fois, si les gens voyaient qu'à la tête du casting, il y avait un mec avec un peu plus de fame, etc., je pense que ça intéresserait, mais peut-être que ce sera l'occasion ce soir de vous faire découvrir cette série, justement.
Très pour bien. Les fans de Los Angeles, ça se passe à Venise, comme tu disais. Il y a beaucoup de détails sur la culture très spéciale de la ville de Venise dans Los Angeles.
Complètement.
Qui est là, bah, Venice Beach, on connaît bien, mais finalement, il y a un côté très multiculturel, un peu village, et en même temps très ghetto, un peu, de cette partie. Dans cette série, on retrouve beaucoup ça. Moi, j'avais beaucoup aimé. Ouais, notamment tout le délire sur les Indiens d'Amérique.
C'est vrai. Ça commence avec une ouverture là-dessus, je crois. Ouais. C'est un petit accrochage avec eux.
Cool, on va enchaîner avec ma deuxième série, qui est une série qui s'appelle Flight of the Conchords. Qui est une série néo-zélandaise qui est sortie en 2007 sur HBO et qui a duré deux saisons, mais c'est deux saisons qui sont vraiment complètes et vraiment réussies. En gros, c'est une série comique qui raconte l'histoire de deux jeunes musiciens qui arrivent de leur Nouvelle-Zélande natale dans l'espoir de percer aux États-Unis et de devenir des méga-stars de la chanson. Sauf que ils sont nuls, en fait. Mais eux pensent qu'ils sont bons. Et il y a un petit passage comme ça dans la série où on ne sait pas vraiment s'ils sont forts ou pas, parce que c'est une série qui est en même temps une comédie musicale. C'est assez hybride, en fait, comme série, parce qu'on va les voir chanter... Et les chansons sont cool, c'est ça qui est fou. C'est que quand ils se mettent à chanter dans la série, la chanson est trop bien, mais on sait qu'ils sont nuls et qu'ils perceront jamais. Et c'est vraiment un humour assez spécial, c'est vraiment parfois du 8e degré. C'est très très drôle, et surtout, il y a un mix avec toute la période SNL de la fin des années 2000, parce qu'il y avait pas mal de guests, j'avais pris des notes, mais il y a pas mal de gens qui étaient au Saturday Night Live qui sont passés dans cette série. Il y avait par exemple Will Forte qui est dans un des épisodes les plus drôles de la série. Il y avait aussi Kristen Wiig, etc. Et comme pour Mad About You, j'en parlais tout à l'heure, il y a eu pas mal de guests qui sont passés dans Flight of the Conchords, alors qu'il y a juste eu deux saisons et que c'est une série qui n'est pas trop connue. Il y a eu Patton Oswalt, il y a eu Dimitri Martin, donc pas mal de comiques qui ont percé à cette époque-là aussi. Il y a eu Taika Waititi, qu'on a connu après par la suite en tant que réalisateur pour Thor, par exemple. Ragnarok, il y a aussi eu Aziz Ansari et même Art Garfunkel et Jim Gaffigan. Art Garfunkel était venu dans un épisode spécial qui était assez drôle, où en gros le type copiait Art Garfunkel, enfin s'habillait comme lui. Et c'est vraiment une série qui est très drôle. Moi, à l'époque, j'habitais à Montréal, et en fait c'était une sorte de rituel où, avec un pote qui habitait là-bas à Montréalais, on avait découvert cette série, c'était au même moment, et on se matait les épisodes. Et il y a ce truc où maintenant j'associe cette série à une période, au fait de l'avoir vue avec un ami. Et finalement, c'est assez rare de regarder une série avec des amis. C'est vraiment un truc, genre, on va voir des films avec des amis, on regarde pas des séries avec des amis. On peut regarder avec sa meuf, etc., son mec, mais on regarde pas des séries avec des amis. Et là, pour la première fois, je regardais une série avec un ami, et c'était trop bien parce qu'on a suivi ça ensemble et tout, et du coup, ça me rappelle une époque, ça me rappelle une période, et c'est vraiment très drôle. Et je comprends pas que cette série soit pas plus connue, parce que je la mets vraiment top 3 des séries les plus drôles que j'ai vues dans ma vie. Vraiment, ce serait un top avec Curb Your Enthusiasm, Seinfeld, Your Flight to the Conchords. Aussi, on hésitait à en parler, Is Born and Down, Kenny Powers, qui est une excellent. Des les plus drôles que j'ai vues dans ma vie. Mais voilà, c'est rare. Moi, en fait, en général, quand je regarde des séries, c'est surtout des séries drôles. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai très envie de voir Crashing. Tu m'as convaincu. Mais vraiment, voilà, c'est ce qui m'anime quand j'ai envie de voir une série. Et vraiment, c'est très, très drôle. Je vous conseille vraiment à fond Flight of the Conchords.
Et tu sais ce que devient. Comment s'appelle cet acteur?
Quel acteur?
Celui-ci qui est derrière là.
En fait, cet acteur, oui, parce que en fait, je suis bien de me poser la question, mais il dit les deux acteurs, ils n'étaient pas du tout connus quand ils ont commencé. Ils ont commencé avec Flight of the Conchords. Et après, on a un des deux acteurs qui a joué dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il joue un elfe, je crois. Et l'autre, après, a joué dans Men in Black 3, je crois. Il a joué dans pas mal de films. Donc, ils ont eu quand même une bonne petite carrière d'acteur après. Là, on les voit un peu moins. Mais voilà, c'est trop drôle. Si vous aimez, ça se passe encore une fois à New York, à Brooklyn, je crois d'ailleurs. Et voilà, c'est très, très, très réussi. On va enchaîner avec la troisième série, et ça va être la série de Johan. Johan, tu veux nous parler de quoi?
Je vais vous parler d'une série qui a inspiré mon style vestimentaire. Alors, ça se voit pas aujourd'hui, mais je suis un grand fan de Deux Flics à Miami. Ma série fétiche, celle avec laquelle j'ai grandi. Alors il y avait ça et Maggie. Personne ne connaît Maggie ici. C'est pas grave.
Si, rien. Si, bien sûr, Marc Thibault.
Oui, Maggie. Ouais, voilà, je regardais tous les dimanches. Mais on va parler de deux flics à Miami parce que bah, regardez comme ils sont lookés les gars. Alors pour ceux qui nous écoutent par le podcast, bah, vous avez qu'à regarder sur Google Images. Mais dans tous les cas, c'est une série que j'adore. Bon, et alors, je vais commencer par une anecdote puisque j'adore les anecdotes et je vais vous raconter la fois où je me suis inscrit à Motus. Vous allez dire, mais quel est le rapport avec deux flics à Miami ? Eh bien, je vais vous raconter cette histoire. Bon. Il y a une dizaine d'années, je n'étais pas au sommet de ma réussite, puisque j'étais au chômage, ce qui m'arrive en tout cas assez régulièrement.
Tu étais au chômage, j'ai même pas...
Deux semaines ?
Oui, deux semaines. Deux
oui, j'étais au chômage samedi dernier, en fait. J'ai commencé mon boulot lundi, ouais, pour tout vous dire.
C'est une façon de vivre, même, pour toi, le chômage.
Oui, mais c'est très agréable.
Oui, bien sûr, je comprends.
On vit en pyjama, on se nourrit que de céréales. C'est très agréable. Et donc, il y a une dizaine d'années, je me dis, bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour occuper mon chômage ? Et je me suis dit, les gars, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on va participer à des jeux télé. Donc, je me suis inscrit aux Amours. Problème, j'étais célibataire et du coup, c'était compliqué. Et un jour, je me dis, bah, Motus. Et alors, qu'est-ce que je fais ? J'appelle le grand dadé à ma droite et je lui dis, mec, on s'inscrit à Motus ? Et il fait, ok, donc, qu'est-ce qu'on fait ? On s'inscrit. Okay. Donc, je règle, je fais tout ça, etc. Et on arrive au casting de Motus, en tout cas, ce que nous estimions être un casting. Donc, on arrive, c'est dans un hôtel à Saint-Ouen, il fait une chaleur de ouf, et on arrive dans l'hôtel. Sauf que nous, on s'est dit que pour sortir du lot, pour que les gens nous disent, oui, c'est les deux là, on vous veut dans l'émission. En fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est habillé comme les deux gars derrière, comme Ricardo Tubbs.
C'est vrai qu'on est allé au casting de Motus habillé en Miami.
Et Sonny Croquette.
Ça n'a pas de sens.
Et donc, moi, j'avais costume blanc crème croisé, etc. T-shirt saumon. Lui, costume bleu avec les cheveux gominés en arrière et tout. Une classe. Franchement, si on était là comme ça aujourd'hui, vous nous adoreriez. Bon, bref.
Et donc, on a été très, très nuls.
Bah oui, effectivement. Et donc, on arrive, on voit des gens en train de réviser. Parce que Motus, c'est pas un truc où tu es sélectionné juste pour ta bonne humeur. C'est qu'en fait, il faut connaître les mots. Et nous, là, vous l'avez vu avec ce podcast, on a quand même un vocabulaire assez limité. Donc, en fait, on voit des gars qui sont en train de remplir des grilles et tout par cœur. On arrive dans une salle et le mec nous fait bon, eh bien, pour patienter, je vais vous mettre un épisode culte de Motus. Et alors, il allume l'épisode et les gens autour de nous étaient comme ça, fait oui, celui-là, épisode génial. Nous, on était là, on remplit nos grilles, on trouve trois mots chacun.
Et je sais même pas si j'en ai trouvé un, moi.
C'est quoi ? On a essayé de se copier l'un sur l'autre, sauf qu'en fait, on était tellement nuls qu'en fait, on a trouvé zéro mot. Et donc, on rentre, les mecs analysent un peu les grilles et tout ça, et ils disent tout le monde est bon, sauf Jean-Baptiste Toussaint et Joanne Carassus. Et alors, je vous laisse imaginer la tristesse quand on s'est levé devant tout le monde. Qu'on a marché au ralenti avec moi en costume blanc, lui en costume bleu, et qu'on est sorti de la salle et on est sorti regarder, on s'est dit bon, on va manger un Burger King et on est parti. Bon, voilà un peu mon rapport vestimentaire avec Miami Vice. Mais
vous n'êtes... Motus, ça existe encore, non, c'est terminé.
Non, mais c'est, je trouve que c'est très malheureux. Voilà.
Non, ça n'existe plus, Motus.
Bah non.
Ah bah non, mais c'est terminé. Je te sens déçu.
Non, mais récemment alors, parce que j'ai vu des épisodes encore il y a pas si longtemps.
Ah ouais, c'est des rediffs. Ouais. Personne s'en rappelle.
Motus, c'est terminé.
C'est culte.
Et donc Miami Vice, Johan.
Oui, on en parle. Ouais. Alors attendez, je vais prendre mes notes. Oui, donc Miami Vice, as known in France as deux flics à Miami. C'est une série qui est diffusée entre 1984 et 1989, qui narre les aventures d'un duo de flics. Sonny Croquette, qui est le monsieur à gauche en costume blanc, et Ricardo Tubbs. Sonny Croquette, vous le connaissez puisqu'il est incarné par Don Johnson. Oui, c'est bien le papa de...
Ah bah de 50 nuances de
Dakota.
Dakota Johnson.
Et Ricardo Tubbs, pour info, j'ai la figurine dans mon salon de Ricardo Tubbs, et c'est un repoussoir pour les femmes. C'est-à-dire que chaque fois qu'elles le voient, elles quittent mon appart.
Parce non, en fait, c'est pas ça. C'est que
elle est abominable, cette
la figurine. Déco de Johan, c'est que des petites figurines, des petits jouets, et puis bon... Ça fait...
Ouais, des petits jouets. On a vu ton appart.
C'est vrai.
Et donc, en gros, c'est une série qui se passe dans les années 80 à Miami. Ils luttent contre le crime et le trafic de cocaïne. Et donc, effectivement, c'est une esthétique très marquée.
Pardon, je te coupe, Johan.
Oui, vas-y.
T'as pas demandé, comme Mehdi, s'il y avait beaucoup de gens à l'Assemblée qui étaient allés à Miami. Apparemment, c'est le truc du
podcast. Alors, on n'est pas sur la Miami éditoriale en termes d'humour avec,
ouais, on n'a pas le même
avec Mehdi. Alors, par contre, Mehdi peut poser la question.
Non, je ne comprendrai pas ton truc de Miami.
Bon, bah, très bien.
Pardon, donc, c'est...
Non mais tu as bien fait, c'était une intervention très utile. C'est un instantané des années 80, c'est un concentré des 80s, elle est connue donc pour son esthétique hyper marquée, il y a des néons, il y a une ambiance qui est très clippée, et surtout, qui est derrière tout ça, c'est Michael Mann. Michael Mann, vous le connaissez forcément, puisque... alors, il officie en tant que producteur et directeur de la photo, donc c'est une esthétique qui est hyper léchée. Si vous avez vu Manhunter, si vous avez vu Heat, si vous avez vu Collateral, vous êtes forcément fan de son esthétique. Moi, en tout cas, j'adore ça. Et donc, c'est hyper travaillé. C'est une série qui est très, très belle en fait. C'est, franchement, vous pouvez prendre n'importe quelle image de la,
pour de la télé, c'est ouf. Hein.
De la série, vous l'imprimez, vous la mettez dans vos toilettes.
Et puis la différence avec les autres séries, parce qu'on a parlé de Magnum, on a parlé de V, on a parlé de Miami Vice, donc des séries vraiment ancrées années 80. La différence avec Miami Vice, c'est qu'elle est un peu plus connue du grand public aujourd'hui parce qu'il y a eu un film après,
effectivement,
réalisé par Michael Mann.
Qui a été adapté donc, au ciné en 2005. Nemo, d'ailleurs, tu as fait il n'y a pas longtemps un classement.
Oui,
c'était le film de Michael Mann. Tu l'avais classé à quelle place?
Cinquième, je crois.
C'est de l'impro, là. J'ai posé la question.
Ouais, c'est pas prévu. C'est pas prévu que tout le monde ait épaté parce que tu passais.
Et oui, je l'ai mis dans les cinq premiers parce que. Ouais, c'est ça, je crois.
Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Alors, je fais une petite.
Moi aussi. Hein.
Mais le film, j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans parce que j'ai pas vu ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à avoir une adaptation un peu bêta comme il y avait eu Starsky Hutch et tout ça. Un truc très premier degré. Et en fait, il a réinventé Michael Mann,
ouais,
de Flic à Miami, et pour le coup, c'était top. Bon, dans tous les cas, de Flic à Miami, c'est aussi connu parce qu'il y a eu un nombre de guest stars assez monstrueux. Il y a eu, alors je vous l'ai fait dans l'ordre, je vais faire une liste, Helena Bonham Carter, vous la connaissez tous et toutes. Bon, il y a eu Stanley Tucci, que toi tu adores.
Stanley Tucci.
Il y a eu James Brown, Leonard Cohen, Benicio Del Toro, Viggo Mortensen, figure-toi. Il y a eu Liam Neeson, Ben Stiller, alors je ne savais pas, j'étais sûr.
Ah ouais?
Bah ouais, moi j'ai fait la même. J'ai fait comme ça, je fais pas ouais. Il y a eu Julia Roberts, Chris Rock, Wesley Snipes.
Et très souvent quand ils n'étaient pas vraiment connus. Quoi.
Mais non, il y a eu Bruce Willis, ce qui est assez drôle, puisque. Enfin, drôle, tout est relatif, mais Don Johnson est doublé par Patrick Poivet et Bruce Willis est la même voix. Bon, bref, donc du coup, c'est très bizarre.
Vous avez trouvé ça drôle ou pas?
Moi, ouais, non. Bien.
Même moi, en le disant, je me suis dit, mais c'est pas hyper drôle. Hein,
ça veut dire qu'il a dû faire deux voix pendant le truc, c'est ça.
Il y a Julia Roberts, il y a eu Wesley Snipes, Laurence Fishburne, et il y a même eu une petite française. Parce qu'il y a eu Ariel Dombal.
Bon. Ah ouais, mais non.
Et là, d'un coup, le casting.
Est-ce que ce serait pas la grosse info de ce podcast? Ariel Dombal dans Miami Vice.
Et ouais,
mais aussi Ali, Alligator.
Je vous conseille de taper.
Non, pardon.
Refais-la,
s'il te plaît.
Non, c'est bon.
Si, refais-la, on n'a pas entendu.
Non, elle était bien.
Tout le monde te regarde. Refais-la bien en regardant le public.
Est-ce que le public peut juger Nemo? Parce que c'est très difficile.
Il y a un crocodile dans son bateau. Voilà,
il vit avec un alligator.
Qu'est-ce que je te dis?
Oui, donc tu conseilles Miami Vice.
Et donc, oui, pour aller très très vite sur deux choses. C'est une série que donc j'adore, qui a un peu vieilli, on va pas se mentir, mais qui mérite d'être regardée comme une espèce de carte postale des années 80. Et petite anecdote, dernière anecdote, et après je vous laisse tranquille et je donne la parole au grand patron qui me regarde mal, c'est que dans cette série, il y a une légende en fait dans ma famille, dans cette série, je vais vous raconter ça, c'est que en fait dans les années 80, il y avait un sport qui était très à la mode aux États-Unis, vous savez peut-être pas, c'était la cesta punta. Est-ce qu'il y a des gens qui sont du Sud-Ouest qui savent ce que c'est? C'est la pala, vous savez, vous jetez contre le mur et vous balancez ça. Et donc, c'était hyper à la mode. Moi, j'ai, du côté de mon père, on vient du Sud-Ouest, info essentielle. Et donc, on avait un des cousins de mon père qui était un champion de pala, de cesta punta. Et il est parti vivre à Miami dans les débuts des années 80. Et donc, si vous avez en tête le générique de Deux Flics...
C'est vrai qu'il y a de la cesta punta.
Exactement. Dans le générique, à un moment donné, il y a un mec comme ça, il balance et tout ça. Et là, les gens étaient que c'était... Ben le cousin de mon père.
C'est faux.
Exactement.
Mais j'arrête tout de suite la légende.
En tout cas, c'était la légende qui courait dans la famille, invérifiable. Mais bon, ça me faisait plaisir. À chaque fois, je disais, hey, c'est Tonton.
Tu l'as vérifié à un moment, c'était faux?
Pas du tout. Non, on n'avait aucun contact avec ce monsieur. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des Carassus en Floride. Donc, voilà, les gars, calmez-vous maintenant. Regardez Miami Vice, c'est toujours mieux que, je sais pas, Emily in Paris, quoi.
Et puis les musiques aussi du...
Oui, j'en ai pas parlé. Mais alors la musique, si vous êtes Talk, Huey Lewis, si vous aimez les années 80, si vous aimez les années 80...
Il bourrait.
J'ai bu ma bière quotidienne, là, ça m'a éteint. Mais non, c'est top, regardez. Tu as déjà vu, Mehdi, t'as bien?
Ouais, en plus, moi j'adore le jeu GTA.
Oui, parce que c'est vrai qu'on en parle.
Le jeu GTA, ouais.
En vrai, non, GTA, il y a un peu de Miami Vice.
Oui, parce que quand t'as les trois étoiles dans Vice City, t'as la police qui arrive et... Ils sont habillés comme JB et moi. Enfin, comme Ricardo Tubbs et Dungeon.
Ouais, t'as venu avec la série d'Aurélien. Aurélien, qu'est-ce que tu nous
conseilles? Oui, alors moi, pour la deuxième série, c'était dans les années 2000, quand j'étais très passionné par HBO, tout ce qui sortait, j'avais l'impression que c'était légendaire, je regardais tout. Dès qu'il y avait une nouvelle série, je la regardais. Et sur la dernière saison, je pense, de Soprano, ou l'avant-dernière, qui était en début de soirée le dimanche soir, vu que c'était leur top série. Il y en avait une deuxième en général qui servait un peu de filler derrière Soprano, parce qu'ils savaient que c'était leur gros truc. Et en 2006, c'était Big Love. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be. série avec Bill Paxton, qui a duré, je pense, 6 saisons ou 5 saisons. Et là, j'ai pris une sacrée claque parce qu'en fait, comme d'habitude avec HBO, tu rentres dans un univers complètement atypique et au début, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on me raconte là ? C'est Bill Paxton, qui est polygame, qui a 3 femmes, qui est mormon dans l'Utah, un état où on n'ira jamais. Là, on peut lever la main, personne n'a été dans l'Utah, je pense, Salt Lake City, personne ne connaît. Moi, mon équipe préférée de basket, c'était les Utah Jazz. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde kiffait Michael Jordan, je kiffais John Stockton. Voilà. Donc, tout de suite, j'ai pris une passion folle pour cette série. Parce que dit comme ça, on a l'impression que c'est étrange, surtout maintenant, de dire, OK, c'est un mec qui donc a 3 maisons côte à côte, dans lequel il a 3 femmes et 3 familles un peu différentes. Mais en fait, on t'explique très rapidement que c'est donc Bill Paxton qui joue le rôle d'un personnage qui a été viré d'une secte, finalement, où ils habitent tous les uns avec les autres un peu plus loin, une grosse congrégation un peu mormone, où il y a des acteurs de fous, genre son père est joué par Bruce Dern, il y a Harvey Dartel qui joue le prophète, et donc il vit depuis sa plus jeune enfance en tant que sous le précepte du principe, ce qu'ils appellent le principe, c'est-à-dire que il faut absolument que tu sois polygame, il faut absolument que tu aies plusieurs femmes, sinon bah t'es pas vraiment un homme quoi. Et lui s'est fait virer de la secte, donc il vit dans la vie réelle. Il a plusieurs magasins de bricolage et il fait sa vie normale. Donc il est dans la société normale américaine, sauf que bah il est un peu pas dans la légalisation parce que il a comme ça 3 femmes et en fait ils arrivent à caler tout un truc où on apprend à rentrer très rapidement dans la psyché de cette famille où finalement les 3 femmes sont très différentes et il les aime pour des choses différentes et surtout il y a un désir de créer une famille avec tout ça, avec toutes les histoires. Et en plus, il y a un truc un peu de mafieux, où finalement, il y a un prophète qui essaye de prendre de l'argent à tout le monde, qui explique que la polygamie, c'est bien, mais en même temps, il fait des trucs comme ils font dans toutes les sectes, c'est-à-dire il carotte de la thune à tout le monde, et il essaye de faire des choses pas terribles. Donc Bill Paxton, à la fois, il croit à ce truc, et en même temps, il y croit de moins en moins. Il y a plein d'histoires parallèles avec de familles et des enquêtes un peu bizarres de gens qui disparaissent. Franchement, c'est passionnant. Psychologiquement, les acteurs sont géniaux. En plus, le générique de début, c'est God Only Knows des Beach Boys. Donc, il y a tout un délire même sur la religion et sur les croyances, comment tu veux vivre ta vie. Et moi, je connaissais pas du tout cette ville-là. Je savais même pas que les Mormons. En fait, ils sont basés sur des faits réels, mais plutôt plus anciens. Donc, c'est des choses qui avaient lieu dans les États-Unis dans les années 50 ou voire avant la guerre. Qui était déjà plus légal quand ils ont sorti la série, mais tu sens que c'est des choses qui sont encore très présentes dans la société en Utah. Et j'ai trouvé ça passionnant de mélanger un peu. Enfin, là où on voit par exemple, tout le monde, je pense, a vu la série Israël, les séries documentaires un peu sur ce genre de choses. Là, on frôle ça et en même temps dans un rôle très plus personnel avec Bill Paxton qui est génial, Chloé Sevigny, Jane Triburn et la dernière, comme d'hab, je note pas les noms donc je m'en rappelle jamais, je suis un horrible personnage, mais vraiment ce quatuor est exceptionnel et on apprend plein de choses sur en fait les relations que tu peux créer dans une famille sans forcément enfin je sais pas, à un moment je me suis presque dit genre pourquoi pas la polygamie, tu vois, enfin là comme...
Ah ouais, tiens.
Mais comment il expliquait le truc en fait dans la famille, c'était
on a parlé à ta meuf ou pas?
Non, pas du tout. Je dis pas que moi je veux le faire, mais genre ils arrivaient à rendre crédible quelque chose, tu t'avais pas l'impression que c'était quelque chose d'étrange en fait.
Mais dis la polygamie
dans leur façon de vivre le truc.
Entre les
non, c'est un débat catastrophique.
Entre la série Raël et ce que tu viens de dire, effectivement, la polygamie ça me trotte dans la tête, ouais.
Ok, merci Mehdi.
Catastrophique.
Très bien, c'est déjà pratiquement à la fin de ce podcast. Je vais faire un petit tour de table. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander chacun, de toutes les séries dont on a parlé dans cet épisode, quelle est la série que vous avez envie de regarder ? Quelle est la série qui vous a le plus hypé ? Aurélien, de tout ce qu'on a dit là depuis le début.
Ah, direct.
Ou une série que tu as envie de revoir ou quoi, toutes les séries qui ont été abordées.
Kingdom. En vrai, j'avais adoré la série et je l'avais totalement oubliée. Là, Sarah me l'a rappelé. Et franchement, merci. C'était, j'ai grave envie de la revoir.
Sarah.
Eh bien, figure-toi que c'était Big Love. Donc, comme ça.
Ah ouais,
ouais.
Ouais, vous avez une petite connivence.
Exactement.
Ouais, très bien. Oh, Johan.
Bon, je vais mater Crashing.
Mais non. Ça, c'est ta série.
En fait, t'as pas écouté ce qu'on a dit, toi. Ce sont tes trucs.
C'est bien pour ça que je vais la regarder.
Il est individualiste. Mehdi.
Toi, je vais tout. moi, c'est toi, je vais bien.
Ok, non, mais en vrai, je suis chaud sur Crashing.
Mais t'as bien raison, ça fait deux voix. Hein.
Non, mais ouais, non, mais c'est, bah, c'est Crashing qui gagne, figure-toi.
Bravo. Ah, je me rappelle.
Il y a un peu de magouille parce que t'as Marseillais, toi.
Un petit peu,
ouais. Crashing, c'est super, hein. Moi j'ai aimé. D'ailleurs, il a un côté un peu mormon au début du personnage.
Alors oui, je l'ai pas précisé, mais oui, il fait des tournées avec l'humour cato. Je sais pas, vous connaissez pas ça.
C'est ça qui est intéressant au début. Découvrez. C'est un peu décalé par rapport à ce que tu connais du stand-up et tout.
C'est génial.
J'ai bien aimé dans Crashing.
Ouais.
Voilà, en tout cas, on espère que ce podcast vous donnera envie de voir au moins une série sur les 8, sur les 10 qu'on a abordé dans cet épisode. C'est donc la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bye.
Merci.
Merci, merci.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.